Chapitre 44. Environ 10 jours après la mort de Madame Churchill, M. Weston vint le matin et fit prier Emma de descendre, ayant à lui communiquer quelque chose d'important. Il fut au-devant d'elle à la porte du salon, et, se donnant à peine le temps de s'informer tout haut de l'état de sa santé, il lui demanda à l'oreille, pour ne pas être entendu de son père, si elle pouvait dans la matinée aller à Randalls, que Madame Weston avait absolument besoin de lui parler. « Est-elle malade ?»« Non, non, du tout. Elle est un peu agitée. Elle serait venue en voiture, mais elle désire vous voir seule. Et vous savez... » lui montrant son père. « Et pouvez-vous y aller ?»« Certainement, tout à l'heure, si vous le désirez. Il m'est impossible de vous refuser. » « Mais de quoi s'agit-il? Est-elle véritablement en bonne santé ?»« Vous pouvez m'en croire, mais plus de questions. Vous saurez tout en temps et lieu. L'affaire la plus extraordinaire. Mais chut, chut, chut !» Il était impossible, même à Emma, de deviner ce que cela voulait dire. Ses regards annonçaient quelque chose de très important. Mais puisque son amie était en bonne santé, elle prit patience et, disant à son père qu'elle allait faire un tour de promenade, ils sortirent ensemble et marchèrent à grands pas du côté de Randalls. « Maintenant, dit Emma, que nous sommes hors des barrières, dites-moi, monsieur Weston, ce qui est arrivé. » « Non pas, non pas, répliqua-t-il gravement, ne me demandez rien. J'ai promis à ma femme de ne vous rien dire, de lui en laisser le soin. Elle est plus en état que moi de vous faire l'ouverture de cette affaire. Ne soyez pas impatiente, Emma, cela ne viendra que trop tôt. » « Me faire une ouverture, à moi ? » s'écria Emma, s'arrêtant terrifiée. « Grand Dieu ! Monsieur Weston, dites-moi sur le champ, il est arrivé quelque chose de sinistre sur la place Brunswick ? Qui cela regarde-t-il ? Par tout ce que vous avez de plus sacré, ne me cachez rien. » En vérité, vous vous trompez. Monsieur Weston, pas de plaisanterie. Considérez combien j'ai d'amis dans la place Brunswick. Dites-moi à l'instant ce qui en est. Sur ma parole, Emma. Sur votre parole, pourquoi pas sur votre honneur? Pour quelle raison ne dites-vous pas sur votre honneur que l'affaire en question n'a rien de commun avec eux? Juste ciel, quelle ouverture peut-on me faire qui ait quelque rapport avec aucun membre de cette famille? « Sur mon honneur, dit-il très sérieusement, il n'y en a point. Cette affaire ne regarde en rien aucun individu de la famille Knightley. » Emma reprit courage et continua à marcher. « J'ai eu tort, continua-t-il, de vous parler d'ouverture. Je n'aurais pas dû me servir d'une pareille expression. Dans le fait, cette affaire ne vous regarde pas du tout. Elle ne regarde que moi seul. Du moins, nous espérons... « Enfin, ma chère Emma, vous n'avez aucun sujet de vous alarmer. Je ne dis pas que cette affaire ne soit très désagréable, mais elle aurait pu être plus mauvaise. Si nous marchons un peu vite, nous arriverons bientôt à Randalls. » Emma vit qu'il fallait attendre. La chose n'était plus difficile. Ainsi, elle ne fit plus de questions. Elle s'abandonna à son imagination, qui lui suggéra bientôt que ce pouvait être une affaire d'argent, qui venait de se découvrir et qui affectait les intérêts de la famille, quelque chose que le dernier événement de Richmond avait probablement mis au jour. Son imagination travaillait activement. C'était peut-être une demi-douzaine d'enfants illégitimes et le pauvre Frank déshérité. Tout cela, quoique peu désirable, ne la tourmentait pas beaucoup et ne lui inspirait que de la curiosité. « Qui est ce monsieur qui est à cheval ? » dit-elle. Faisant cette question pour aider M. Weston à garder son secret, plutôt que par envie de savoir qui il était. « Je ne sais pas, un des Otway. Ce n'est pas Frank, je vous assure. Vous ne le verrez pas. Il doit être à présent à moitié chemin de Windsor. » « Vous avez donc vu votre fils ? » ?»« Oh oui, vous n'en saviez rien, mais c'est égal. » Il garda un moment le silence, puis ajouta avec réserve. « Oui, Frank est arrivé ce matin. » uniquement pour nous demander comment nous nous portions. Ils marchèrent d'un bon pas et arrivèrent peu après à Randalls. « Eh bien, ma chère, dit-il en entrant dans la salle, je l'ai amené, je me flatte que vous serez dans peu beaucoup mieux. Je vous laisse ensemble. Dépêchez-vous, le retard ne vaut rien. Si vous avez besoin de moi, je ne serai pas loin. » Emma lui entendit dire à sa femme, quoi qu'il lui parlât à l'oreille, « J'ai tenu ma parole, elle n'a pas la moindre idée. » Madame Weston avait l'air d'être si indisposée et si troublée que l'inquiétude d'Emma en augmenta, et lorsqu'elles furent seules, elle dit avec vivacité « Qu'avez-vous, ma chère amie? Il vous est arrivé quelque chose de très désagréable à ce que je vois. Faites-m'en part sur le champ. J'ai été dans la plus vive inquiétude depuis Hartfield jusqu'ici. Toutes deux, nous n'aimons pas d'être tenues en suspens. Vous vous trouverez soulagée en me confiant vos chagrins, de quelque nature qu'ils soient. » « En vérité, vous n'avez pas la moindre idée, » dit Madame Weston d'une voix tremblante. « Ne pouvez-vous pas, ma chère Emma, vous former une idée de ce que j'ai à vous communiquer ?»« Autant que cette affaire regarde M. Frank Churchill, je le crois. »« Vous avez raison, elle le regarde, et je vais tout vous dire. » Reprenant son ouvrage pour lui servir de contenance et ne pas lever les yeux. « Il est venu ici ce matin pour une affaire très extraordinaire. » Il est impossible d'exprimer notre surprise. Il est venu parler à son père sur un sujet pour annoncer un attachement. Elle s'arrêta pour reprendre haleine. Emma pensa d'abord à elle-même et puis à Henriette. « C'est bien plus qu'un attachement, reprit Madame Weston. C'est un engagement et un engagement positif. Que direz-vous, Emma? Que diront tous ses amis, toutes ses connaissances quand on saura que Frank Churchill et Mademoiselle Fairfax sont engagés l'un à l'autre, et cela depuis longtemps. » Emma sauta de surprise et, frappée d'horreur, s'écria « Jane Fairfax ? Grand Dieu, vous ne parlez pas sérieusement ? Vous ne le pensez pas ?»« Votre surprise est bien légitime, » reprit Madame Weston sans la regarder et parlant avec vivacité, afin de donner à Emma le temps de se remettre. « Vous avez lieu d'être étonnée, mais c'est la vérité. Il y a eu un engagement solennel formé entre eux en octobre dernier, dont personne n'a eu connaissance. Cela est arrivé à Weymouth. Il n'y avait que dans le secret. Ni les Campbell, ni leurs familles respectives n'en ont rien su. Cela est si étonnant que, quoique convaincue de la vérité du fait, j'ai peine à y croire. Je me flattais de le connaître. » Emma entendait à peine ce qu'elle disait. Son esprit était partagé sur deux idées différentes. Ses conversations avec lui sur Mademoiselle Fairfax et la pauvre Henriette. Et pendant quelque temps, elle ne fit que des exclamations et demandait de rechef la confirmation de ce qu'elle avait entendu. « Fort bien, » dit-elle enfin, en tâchant de se remettre. « C'est une histoire à laquelle il faut que je pense au moins la moitié de la journée avant de la comprendre. Comment avoir été engagée avec elle pendant tout l'hiver, avant qu'ils soient venus à Highbury ? Oui, Emma, engagée depuis le mois d'octobre. Cela m'a fait une peine horrible, ainsi qu'à son père. Nous ne pouvons excuser quelque partie de sa conduite. » Emma réfléchit un moment et répliqua « Je ne veux pas prétendre cause d'ignorance, je vous entends, et je vais vous donner toute la consolation dont vous avez besoin. Je vais vous surprendre, mais bien agréablement. Sachez donc que les soins que m'a rendus M. Frank Churchill n'ont point eu l'effet auquel vous vous attendiez. » Madame Weston leva les yeux, craignant d'avoir mal entendu. Mais la contenance d'Emma était aussi assurée que ses paroles. « Pour que vous ayez moins de difficultés à croire à la parfaite indifférence dont je me glorifie, continua-t-elle, je vous dirai, de plus, qu'il y eut un temps, au commencement de notre connaissance, que je le trouvais à mon gré et que j'étais disposée à m'attacher à lui. Je dis plus, je l'étais. Comment cela a cessé, je l'ignore. Heureusement, cependant, cela est arrivé. Il y a en vérité plus de 3 mois que je ne sens rien du tout pour lui. Vous pouvez m'en croire, Madame Weston, je vous dis la pure vérité. » Madame Weston, les larmes aux yeux, se jeta à son cou, et aussitôt qu'elle put parler, elle l'assura que rien au monde ne pouvait lui faire autant de bien que ce qu'elle venait de lui entendre dire. « Monsieur Weston sera presque aussi satisfait que moi quand il apprendra l'assurance que vous me donnez de votre indifférence pour son fils. C'est le seul point qui nous tenait au cœur. C'était le souhait le plus ardent de nos cœurs que vous puissiez avoir de l'attachement l'un pour l'autre. Et nous étions persuadés qu'il en était ainsi. Imaginez-vous ce que nous avons souffert à cause de vous. » Je l'ai échappé belle, et vous, ainsi que moi, devons en être aussi contente que j'en suis étonnée. Mais cela ne la quitte pas, et je dois dire que je le crois très blâmable. De quel droit est-il venu parmi nous, étant engagé, se conduire de manière à faire croire qu'il était parfaitement libre? Quel droit avait-il de chercher à plaire, et il a réussi, et de distinguer une jeune personne par des attentions suivies, comme il l'a fait, tandis qu'il était engagé à une autre? Comment ne prévoyait-il pas le mal qu'il pouvait faire? Était-il sûr que je ne l'aimerais pas? Il s'est en vérité fort mal conduit. D'après quelque chose qu'il m'a dit, ma chère Emma, j'ai lieu d'imaginer... Et comment pouvait-elle supporter une pareille conduite? Quelle tranquillité d'âme! Regarder sans s'en ressentir les attentions suivies qu'on rendait devant elle à une autre femme, c'est un degré de douceur que je ne comprends pas et dont je ne fais aucun cas. Ils étaient brouillés, Emma, il nous l'a dit. Il n'a pas eu le temps de nous donner des détails. Nous ne l'avons eu qu'un quart d'heure et dans une telle agitation que nous avons perdu partie de ce court espace de temps. Mais il a positivement assuré qu'il y avait eu un malentendu entre eux. C'est ce qui a amené cette crise et probablement que leur brouillerie venait de la conduite peu mesurée qu'il a tenue. Peu mesurée? Oh, Madame Weston, l'épithète est douce. Il en mérite une beaucoup plus sévère. Je ne saurais vous dire combien il a perdu dans mon esprit. Cela ressemble si peu à ce qu'un homme doit être. Rien de cette intégrité innée, de cet amour pour la vérité et les principes. Rien de ce souverain mépris pour les petitesses et les ruses dont un galant homme doit se faire honneur dans toutes ses actions. Maintenant, Emma, je dois le défendre, car quoi qu'il ait eu tort en cela, il y a assez longtemps que je le connais pour répondre qu'il possède beaucoup de bonnes qualités et... Bon Dieu ! S'écria Emma qui ne l'écoutait pas. Madame Smallridge aussi. Jeanne, sur le point d'aller chez elle, en qualité de gouvernante, quelle marque de délicatesse de permettre qu'elle ait pensé à adopter une pareille mesure, même de souffrir qu'elle y songeât. Ma chère Emma, il l'ignorait absolument. Sur cet article, il n'est pas coupable. C'est elle qui a pris cette résolution sans la lui communiquer, ou si elle l'a fait, ce n'était que très indirectement. Ce n'est que d'hier qu'il a eu connaissance de ses projets par quelques lettres ou messages. Et c'est positivement ce qui l'a engagé à se déclarer sur le champ, de tout avouer à son oncle, de réclamer ses bontés, pour mettre fin à une aventure qui était cachée depuis si longtemps. Emma commença à mieux entendre. « J'attends une lettre de lui sous peu de jours, » continua Madame Weston. « Il me dit en partant qu'il m'écrirait bientôt et promit de me donner des détails qu'il n'était pas en son pouvoir, vu le peu de temps qu'il avait à rester, de me communiquer alors. Il faut donc attendre cette lettre. Elle pourra atténuer ses torts, elle rendra sans doute intelligibles et excusables des choses que nous ne comprenons pas et qui nous paraissent condamnables à présent. Ne nous pressons donc pas de le juger sévèrement, ayons un peu de patience. Je ne puis m'empêcher de l'aimer, et maintenant que je suis débarrassée du poids énorme qui m'accablait, je désire ardemment que l'affaire réussisse, et j'ose même l'espérer. Ils doivent avoir beaucoup souffert tous les deux d'un pareil système qui les a forcés si longtemps à cacher le secret de leurs engagements. « Il ne paraît pas, reprit sèchement Emma, qu'il ait beaucoup souffert. Eh bien, comment M. Churchill a-t-il pris la chose ?»« Très favorablement pour son neveu. Il a donné son consentement sans presque faire de difficultés. » Que d'événements dans cette famille en une seule semaine. Tant que la pauvre Madame Churchill eût vécu, je ne suppose pas qu'elle eût jamais donné son consentement, et à peine est-elle dans la tombe que son mari se conduit tout différemment qu'elle n'eût fait. Qu'il est heureux que son injuste influence ne lui ait pas survécu. Quant à lui, Frank a eu très peu de peine à lui persuader de donner son consentement. Ah, se dit Emma elle-même. Il lui aussi donné pour Henriette. Cette affaire fut arrangée hier au soir et Frank est parti au point du jour ce matin. Je suppose qu'il s'est arrêté quelque temps à Highbury. De là, il est venu chez nous. Mais il avait une telle hâte d'aller rejoindre son oncle, auquel il est plus nécessaire que jamais, que, comme je vous l'ai dit, il ne nous a donné qu'un quart d'heure. Il était dans une agitation extraordinaire et si forte qu'il était à peine reconnaissable. Ce qui lui avait causé les plus vives douleurs, ce fut de la trouver dans le pitoyable état où elle est. Il n'avait pas la moindre idée qu'elle fût malade. « Oh, ma chère Emma, il a horriblement souffert !»« Et vous êtes bien persuadée que cette affaire a été conduite de la manière la plus secrète et que les Campbell et les Dixon n'ont eu aucune connaissance de leur engagement ?» Emma ne put prononcer le nom de Dixon sans rougir un peu. « Personne au monde, il a assuré qu'âme qui vive n'en a jamais rien su que d'eux. »« À la bonne heure, dit Emma, il faudra bien se faire à cette idée-là. Je leur souhaite toutes sortes de bonheur, mais je penserai toujours qu'il s'est conduit de la manière la plus détestable. Ce système annonce la fraude et l'hypocrisie, l'espionnage et la trahison. Venir parmi nous avec l'apparence de la candeur et de l'ingénuité et avoir formé entre eux une ligue pour nous éprouver tous, c'est abominable. Pendant tout l'hiver et tout le printemps, nous avons été trompés, nous croyant de pair en vérité et en honneur, avec deux personnes au milieu de nous, qui se sont établies juges de nos sentiments, de notre façon de penser sur elles deux, et qui ont pu se communiquer des paroles que nous n'avions pas intention de leur faire connaître. Tant pis pour elles si elles ont entendu quelque chose de désagréable. Quant à moi, je ne le crains pas, car je n'ai jamais dit à l'une ce que j'aurais voulu cacher à l'autre. Vous êtes fort heureuse, car la petite méprise que vous fîtes de soupçonner qu'un certain monsieur de nos amis était amoureux de la demoiselle n'a été connue que de moi seule. Vous avez raison, mais j'ai toujours eu bonne opinion de mademoiselle Fairfax. Je n'aurais jamais pu rien dire contre elle, et si j'avais dit du mal de lui, je ne courais pas grand risque. En ce moment, M. Weston parut à quelque distance de la fenêtre, il paraissait aux aguets. Sa femme lui fit signe d'entrer, et pendant qu'il prenait le chemin de la porte, Mme Weston dit « Ma chère Emma, ayez la bonté de dire, soit par votre contenance, soit par vos discours, tout ce qui pourra le mettre à son aise sur ce mariage. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. L'on ne peut rien dire contre Mlle Fairfax. Ce n'est pas une alliance dont on puisse tirer vanité, mais si M. Churchill s'en contente, de quel droit le trouverions-nous mauvais ?» Cette circonstance, d'ailleurs, peut être très avantageuse à Frank. Il est fort heureux pour lui de s'être attaché à une fille d'un caractère aussi ferme et d'un jugement aussi solide. Ce sont les qualités que j'ai toujours reconnues en Mlle Fairfax, qualités que je lui reconnais encore, malgré la faute qu'elle a commise. Je pense, d'ailleurs, que la situation dans laquelle elle se trouvait atténue en quelque sorte cette faute. « Je pense comme vous, » s'écria Emma avec sensibilité. « Si l'on peut excuser une femme qui ne pense qu'à elle-même, c'est en doute à celle qui se trouve dans la position de Jeanne Fairfax. D'elle, on peut presque dire, comme elle n'a rien dans ce monde, elle ne doit pas être sujette à ses lois. » Emma fut à la rencontre de M. Weston avec un agréable sourire sur les lèvres et en s'écriant « C'est un très joli tour, en vérité, que celui que vous m'avez joué. C'était pour éprouver sans doute jusqu'à quel point j'étais curieuse ou me forcer d'exercer mes talents dans l'art de deviner. Vous m'avez causé un effroi mortel. J'ai véritablement cru que vous aviez perdu la moitié de votre fortune et au lieu de vous faire des compliments de condoléances, je dois au contraire vous féliciter. C'est ce que je fais de tout mon cœur sur la flatteuse perspective que vous avez d'être bientôt le père d'une des plus charmantes filles de toute l'Angleterre et l'une des plus accomplies. » Un coup d'œil ou deux entre le mari et la femme lui fit reconnaître que tout allait bien, qu'il pouvait ajouter foi à ses paroles, ce qui fit sur lui un effet surprenant. Il recouvra sa voix et sa gaieté ordinaire, il lui prit affectueusement les mains et parla comme un homme auquel il ne fallait qu'un peu de temps et de persuasion pour être convaincu que ce mariage n'était pas si mauvais. Sa compagne n'employa que des palliatifs en parlant de l'offense, ne présenta que de faibles objections. Et lorsqu'ils eurent bien discuté l'affaire en s'en retournant à Hartfield, il était tout à fait réconcilié avec les deux coupables. Peu s'en fallut même qu'il ne pensât que c'était la meilleure chose possible pour Frank Churchill.